journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, deux cortèges à Berlin. Deux cortèges sur fond de regain d'antisémitisme qui ont affiché des convictions diamétralement opposées. Reportage de David Philippot. Un incendie dans un centre d'accueil de réfugiés en Bosnie. Un message du chef des talibans afghans sans ambiguïté. Non, on cessez le feu et oui, à la poursuite des négociations avec les Américains. Enfin, un décryptage économico-politique de la politique des sanctions commerciales selon Donald Trump. Sanctions à son paroxysme. Est-ce une volte-face après avoir essuyé bien des critiques? Le commissaire du gouvernement allemand chargé de la lutte contre l'antisémitisme est revenu sur ses déclarations de samedi dernier. Il pensait être prévenant en déconseillant aux Juifs de porter une kippa dans la rue en Allemagne en raison du risque d'agression. Il fut désavoué par la porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel et eut droit au courroux du président israélien. Félix Klein a appelé à désormais porter la kippa aujourd'hui, tout comme le quotidien Bild, en réponse à la journée mondiale Al-Quds, instauré en 1979 par l'ayatollah Khomeini pour remettre en question le contrôle israélien de Jérusalem et apporter ainsi un soutien à la Palestine. À Berlin, un millier de manifestants de chaque bord et fort heureusement aucun heurt. C'est une correspondance de David Philippot.
Pour la Palestine libre, les manifestants contre Israël, contre Trump et son plan de paix, comme Rayan Farhan, un organisateur.
Les réfugiés palestiniens doivent rentrer chez eux et le plan de Trump dit non, ils doivent rester où ils sont, ce n'est pas correct, ça ne marche pas.
Sur le Kurfürstendamm, les Champs-Élysées de l'ouest de Berlin, les drapeaux iraniens et palestiniens flottent dans le vent, portés par des hommes barbus et des femmes voilées. À 100 mètres de là, derrière des barrières, la contre-manifestation. Des associations homosexuelles, antifascistes, pour les droits de l'homme, dénoncent les exactions commises par le régime des Mollahs. Un opposant iranien l'accuse de négationnisme de la Shoah, sous les yeux d'Ingrid, qui porte la kippa en solidarité avec les Juifs.
Je suis allemande, je suis berlinoise. Et je suis naturellement ici contre l'antisémitisme total. Après notre histoire, c'est un désastre et on ne peut pas accepter ce qui se passe actuellement. C'est plus qu'un scandale. Il faut en avoir honte.
L'an dernier, à Berlin, des manifestants avaient brûlé des drapeaux de l'État hébreu et hurlé des slogans anti-Israël. Cette manifestation, autorisée au nom de la liberté d'expression, est resté cette année sous contrôle.
Steve Bannon, persona non grata en Italie. Le ministère d'Intérieur révoque le bail du monastère loué par un institut catholique qui devait servir d'académie à l'ancien conseiller de Donald Trump qui ambitionnait d'y former les futurs dirigeants de la droite extrême européenne. Ce sont ces mouvances politiques qui s'acharnent sur les réfugiés qui, sur la route des Balkans, sont prises au piège des frontières fermées quand la rumeur ne leur prête pas crimes et agressions. Le 17 mai dernier, des réfugiés étaient accusés d'avoir agressé un mineur près de la gare de Sarajevo jusqu'à un démenti de la police. Malgré ces difficultés, il continue de tout faire pour gagner l'Ouest jusqu'à patienter dans d'insalubres locaux. 32 d'entre eux ont été blessés ce matin dans un centre d'accueil bondé du nord-ouest de la Bosnie. Les précisions de Jean-Arnaud de Reims.
Un incendie a éclaté tôt ce matin dans une ancienne usine de Velika Kladuša dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine qui abrite quelques 600 réfugiés. On déplore au moins 32 blessés, des personnes souffrent de brûlures, ont été asphyxiées, d'autres se sont échappées du bâtiment en flammes en sautant par les fenêtres. On ignore encore les causes du sinistre qui pourrait avoir été provoqué par les réfugiés eux-mêmes qui auraient allumé des feux pour se chauffer alors que le temps est exceptionnellement froid et humide pour cette période de l'année. L'ancienne usine Miral a été transformée en centre d'accueil provisoire l'automne dernier et n'a jamais désempli depuis. En effet, traversant les Balkans, migrants et réfugiés continuent d'affluer à Bihać et Velika Kladuša, à la pointe nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Ils tentent de pénétrer dans la Croatie voisine, membre de l'Union européenne mais pas de l'espace Schengen, qui commence une quarantaine de kilomètres plus loin, aux frontières de la Slovénie. Cette région est donc devenue, depuis déjà une bonne année, le principal débouché de la route des Balkans, même si le passage de la frontière croate demeure extrêmement difficile. De nombreuses organisations internationales ont enquêté sur les vols et les mauvais traitements infligés aux réfugiés par la police croate, qui les empêche de demander l'asile et les renvoie immédiatement en Bosnie-Herzégovine, en dehors de toute procédure légale. Malgré cela, 5000 personnes au moins, dont beaucoup de familles avec des enfants, séjournent en permanence à Bihać et Velika Kladuša, et leur nombre ne cesse d'être grossi par ceux qui arrivent du Monténégro ou de Serbie.
À quelques jours de l'Aïd, qui marquera la fin du Ramadan, le chef des talibans afghans s'exprime dans un message très clair. L'insurrection continuera tant qu'il y aura des forces étrangères sur le sol afghan. Il rappelle ainsi la ligne de conduite du mouvement taliban dans les pourparlers de paix avec les Américains. Les précisions de Sonia Ghezali, correspondante de Radio France Internationale à Kaboul.
Personne ne doit s'attendre à nous voir chercher l'apaisement sur les fronts brûlants du djihad ou à oublier les sacrifices que nous faisons depuis 40 ans, tant que nos objectifs n'auront pas été atteints. La phrase est signée Hebatullah Akhundzadeh, la tête des talibans en Afghanistan. La guerre continuera tant que des soldats étrangers se trouveront sur le sol afghan, dit-il en substance. Aucune surprise, le chef de file de l'insurrection des talibans ne déroge pas à sa ligne de conduite. Malgré les pourparlers de paix entamés à l'automne dernier avec les Américains, les deux parties se sont rencontrées le mois dernier pour la sixième fois à Doha au Qatar. Si les discussions semblent avancer dans le bon sens, jusque-là rien de concret n'en est ressorti. Les talibans refusent d'aborder les autres points d'un éventuel accord de paix tant qu'un calendrier précis du retrait des troupes étrangères ne lui est pas présenté. En échange, le groupe armé garantit que l'Afghanistan ne se transformera pas en refuge pour des groupes terroristes. Hebatullah Akhundzadeh insiste dans son message sur la volonté des talibans à mettre en place, je cite, un gouvernement souverain, islamique et ouvert, acceptable, dit-il, pour tous les Afghans. Ce discours ouvert et qui se veut inclusif est cependant très flou. Aucun détail n'a été donné par les insurgés sur les droits qu'ils octroieraient en cas d'accord de paix aux Afghans, hommes et femmes confondus. Enfin, aucun mot sur le cessez-le-feu proposé par les autorités afghanes pour la fête de l'Aïd qui aura lieu dans les prochains jours. L'an dernier, les insurgés avaient déposé les armes pendant 3 jours.
Les autorités irakiennes y avaient vu une surenchère, une décision politique de la part de la Maison-Blanche. Les 83 employés de la compagnie pétrolière ExxonMobil évacués il y a 2 semaines en pleine escalade verbale avec Téhéran, officiellement pour des raisons de sécurité, réintégreront demain le site d'extraction de West Khorna dans la province de Bassora. Cependant qu'à Singapour, le chef du Pentagone et son homologue chinois échangent, Pékin riposte à la calculette et active ce samedi de nouvelles surtaxes douanières sur plus de 5000 produits américains d'une valeur de 60 milliards de dollars. Est-ce ainsi que les grandes puissances vivent? Donald Trump gouverne de la sorte, en démultipliant les fronts commerciaux avec des fortunes diverses. Bonsoir Hugo Lanoé.
Bonsoir Mathieu.
Hugo, prenons le conflit avec le Mexique, un conflit qui pourrait être contre-productif.
Oui, et pour cause, le Mexique n'est autre que le premier partenaire commercial des États-Unis. En voulant taxer les produits mexicains à hauteur de 5% dès le 10 juin, Donald Trump porte un coup au traité de libre-échange nord-américain et suscite par là même l'inquiétude du secteur automobile. À titre d'exemple, 13% des voitures vendues aux États-Unis par le géant General Motors sont fabriquées au Mexique. Ce nouveau front commercial pourrait donc pénaliser les entreprises, les consommateurs, mais aussi et surtout le bilan économique du président Trump. Corentin Célin, spécialiste des États-Unis.
Donald Trump avait un grand succès dans son bilan, c'est la croissance économique et le quasi plein emploi, mais il les met en danger. Des instituts hier ont déjà revu à la baisse leur prévision de croissance et par ailleurs le déficit commercial des États-Unis continue à croître de manière très importante avec une baisse des importations et une baisse encore plus forte des exportations, et même des élus républicains de premier rang commencent à remettre en doute la rationalité des décisions présidentielles.
Et la seule rationalité de cette décision réside sans doute dans la perspective électorale et la prochaine présidentielle en 2020. Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2.
Il est protectionniste vis-à-vis de l'extérieur et libre-échangiste à l'intérieur du pays. Donald Trump, qu'il préconise, c'est de privilégier l'emploi aux États-Unis. Donald Trump lance officiellement sa campagne dans 18 jours. C'est vraiment le moment où il veut agir psychologiquement pour pouvoir avoir un grand mouvement derrière lui et pouvoir assommer cette campagne.
En attendant de savoir si le slogan « L'Amérique d'abord » portera une nouvelle fois ses fruits, l'heure est aux négociations entre Mexicains et Américains. Mathieu, les deux parties se retrouveront à Washington mercredi.
Merci à vous Hugo Lanoé. 29e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, ils étaient des milliers, moins de 3000 selon le ministère de l'Intérieur, à défiler pour plus de justice fiscale. Et puis David Belliard, le chef de file du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, a été élu il y a quelques heures tête de liste des écologistes pour mener la bataille des municipales à Paris en mars 2020. Il l'emporte sur le conseiller régional Île-de-France, Julien Bayou. Quelques mots de la météo de demain. Bon début de journée avant une dégradation par l'ouest. Cette édition était préparée Caroline Beneteau, à la technique Jean-Guy Linmège.